chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Moment incontournable, fondateur des règnes, voici le sacre. 33 fois, le futur monarque s'est rendu de Versailles à Reims pour recevoir l'onction du Saint-Crème qui le faisait roi. Les rois sont morts, vive leur sacre. Si l'on se souvient d'eux, n'est-ce pas parce qu'ils ont su se promouvoir eux-mêmes, développant le rituel de l'acception du pouvoir, de la puissance et de la légitimité avec un faste fait pour marquer les esprits. Cet été, Reims, leur ville de prédilection, a raconté comment la cérémonie était née, puis est devenue, avec les Bourbons, un protocole réglé comme du papier à musique. L'événement qui inaugure un partenariat avec Versailles a lieu dans le cadre du palais archiépiscopal du Thau, attenant à la cathédrale. Il a accueilli à 33 reprises les souverains français la nuit précédant leur sacre. À l'entrée, la salle de la Grande Cheminée évoque les origines mythiques de l'événement avec des tableaux du XIXe siècle, célèbres pour avoir illustré des générations de manuels scolaires.
Oh.
commence par le baptême de Clovis en 498-499. François-Louis de Juines imagine en 1837 le roi des Francs comme un farouche Gaulois, alors que dans une tapisserie du XVIIe siècle, d'après Charles Persson, figurant la même scène, il ressemble plutôt à Alexandre le Grand. Environ 4 siècles plus tard, l'archevêque Ingmar rapporta qu'une colombe était descendue du ciel, tenant dans son bec une ampoule. Son prédécesseur avait apposé sur le converti un peu du baume divin contenu dans la fiole. La nouvelle union de l'Église et du trône se trouvait scellée par ce miracle. Telle fut la première mention du Saint-Crème qui allait attirer à Reims les souverains. Même si Pépin le Bref fut sacré à Soissons et d'autres à Noyon, à Compiègne, à Orléans ou encore dans la cathédrale de Chartres pour Henri IV pour des raisons conjoncturelles. Le petit-fils de Pépin, Louis le Pieux, étant le premier de la série rémoise. La cérémonie se norme progressivement à partir de Louis IX, le futur Saint-Louis. Elle a toujours lieu un dimanche ou un jour de fête religieuse. On procède au lever puis au chemin de pente jusqu'au siège installé dans la cathédrale. Dans les gravures, aquarelles et huiles, on constate combien cette voie sur estrade était parée de tentures, de guirlandes et de belles boiseries. Ici, la foule pouvait apercevoir le cortège. C'est ce que nous compte Éric Biétry-Rivière, envoyé spécial du Figaro à Reims, la ville des Sacres, à l'occasion de cette exposition organisée au Palais du Thau et dont les éditions du Patrimoine ont édité le catalogue. À l'intérieur de la cathédrale, le sacre dure environ 5 heures. Une deuxième procession, des moines de Saint-Rémy, apporte la sainte ampoule. Serment de protéger l'église est prêté sur le livre des évangiles. L'épée et l'éperon d'or, symbole de la puissance laïque et temporelle, font du roi le premier des chevaliers. Il est oint à genoux. se redresse pour vêtir la dalmatique, le manteau fleur-de-lysé, passer l'anneau, prendre le sceptre et la main de justice. Ces attributs, du moins les plus récents, sont visibles dans les salles du trésor. Manque la couronne du roi. La seule qui n'a pas été volée ou détruite est celle de Louis XV, mais elle est restée au Louvre. En revanche, on peut en voir une copie et un moulage de celle de Charles X. Le monarque coiffé de sa couronne retentissait les « Vive le roi !» tandis que des colombes étaient lâchées et que des pièces et des médailles étaient jetées. Une deuxième couronne d'or était portée pour la messe. Le roi communiait, buvant dans le calice dit « à tort » de Saint-Rémy. Lui aussi, on peut l'admirer de près. Il n'est qu'en toute petite partie de la fin du XIe siècle. Comme le reliquaire de la Sainte Ampoule et les somptueux ensembles d'argenterie dorée conçus par Jean-Charles Caillé, ils datent des premières années du XIXe siècle. Une troisième couronne était portée lors du dîner où le roi, en présence de la cour, se trouvait entouré des 12 pairs du royaume. Le lendemain, une cavalcade partait jusqu'à l'église Saint-Rémy de l'autre côté de la ville pour un recueillement sur les reliques. Là, le roi touchait les écrouelles des malades. Au palais du Thau, les symboles de ces grands moments de l'histoire de France sont surtout composés d'objets fabriqués pour le sacre de 1825. 5 ans après, le trône tombait, mais l'immense manteau hyacinthe de Charles X a peu souffert. Seule l'hermine est en fourrure synthétique. Ses effets étaient pieusement emballés avant le retour du cortège à Paris. Ce voyage était prétexte à toutes les fêtes. Il a pu durer jusqu'à 1 mois. Une maquette du carrosse de Louis XV, des dessins de celui de Louis XVI qui fut dépecé et des panneaux de caisse de celui de Charles X suggèrent ses réjouissances. Une dernière salle rassemble divers portraits en costume de sacre, montrant ce qui a évolué dans le genre pourtant très normé. Curiosité, celui de Louis XVIII, roi bourgeois, qui n'a jamais été sacré.
Et souriait
deux objets sacrés remarquables étaient donc présentés au palais de Thau. Ils étaient censés appartenir tous deux à l'évêque Saint-Rémy. Il s'agit du calice, dont il usait pour célébrer la Sainte Messe. Cette pièce d'orfèvrerie appartient au trésor de la cathédrale de Reims. Ce calice est en or, décoré d'émaux, et son pied est serti de pierres fines. On peut voir aussi le reliquaire de la Sainte Ampoule. Un ange, sous la forme d'une colombe, aurait apporté cette fiole d'huile sacrée au futur Saint-Rémy pour oindre le front de Clovis à son baptême. Un troisième objet est là aussi. Il s'agit d'un petit pain d'offrande en argent doré sur son plateau de présentation richement ciselé. Cette exposition, réalisée par le Centre des Monuments Nationaux avec le Château de Versailles, a été organisée avec le partenariat du magazine Point de Vue. Philippe Segui signe l'article qui lui est consacré. Il est là, imposant et solitaire, placé dans la chapelle du palais de Thau, là où le roi priait avant de recevoir la couronne et les insignes de sa fonction sacrée. 6 mètres de longueur, 3,50 mètres de large, impressionnant dans la lumière rasante du palais épiscopal qui jouxte la fameuse cathédrale de Reims. Le manteau du sacre de Charles X, commandé pour son frère Louis XVIII, rayonne. Et sa couleur hyacinthe, brun, orangé, rougeâtre, évoque la splendeur de la pourpre romaine. Car le roi, dans ses états, est aussi empereur. Ne porte-t-il pas la couronne fermée, symbole des empereurs de Rome? Le manteau, en velours de soie, paillettes et canetilles d'or, bordées d'hermine et semées comme le veut la tradition de fleurs de lys d'or et de bouquets sur sa bordure. Fruit de la collaboration entre le palais du Thau et le château de Versailles, donc, l'exposition Sacres royaux met en évidence les prestigieuses représentations d'un art quasi religieux. Car il faut imaginer la splendeur et le faste inouï d'une cérémonie, le sacre des rois, qui dure 5 longues heures. Destiné à magnifier le caractère royal et sacré du souverain, il frappe tous les esprits, fascine en France comme à l'étranger. Il est unique dans sa splendeur et comme l'écrit au dauphin Louis XIV, sacré à Reims le 7 juin 1664, le sacre, encore qu'il ne nous donne pas la royauté, ne laisse pas de la déclarer au peuple et de la rendre en nous plus auguste, plus inviolable et plus sainte. Au départ de Thau, en 1498, une tradition aussi belle qu'une légende, autant jadis pour le sacre de Clovis qui se déroule dans la capitale champenoise, une colombe apporte une ampoule contenant l'huile destinée à la cérémonie. La sainte ampoule servira au baptême du roi franc et à sa confirmation. Conservé pieusement dans le trésor de la cathédrale de Reims, le baume se liquéfie à tout nouveau sacre. Thank you. Chaque roi Bourbon, afin d'asseoir sa légitimité, prend donc la route de Reims. Louis XIII, Louis XV, Louis XIV, Louis XVI, le roi, sa famille, les hauts dignitaires du royaume, la cour sont attendus par le clergé. 5 pairs ecclésiastiques et 6 pairs laïcs qui représentent la totalité du peuple. Le déroulement de la cérémonie est réglé selon un protocole parfaitement établi. Le souverain, dès son arrivée à Reims, prend possession de ses appartements privés au palais du Thau. En fait, ceux de l'archevêque qui les laisse à sa majestueuse disposition. Là, le souverain se confesse. Au petit matin du grand jour, le lever du roi marque le début des cérémonies. 2 évêques frappent solennellement à la porte et demandent le roi. Le grand chambellan, sans ouvrir, répond. Le roi dort. Nouvelle tentative. Même réponse. La question est alors formulée autrement. Nous demandons Louis XV, que Dieu nous a donné pour roi. La porte s'ouvre. Sortant de sa chambre, le monarque porte une camisole rouge, fendue aux endroits destinés à recevoir les fameuses onctions du Saint-Crème. En grand cortège, il se rend à la cathédrale entièrement pavoisée. Le décor confié à l'intendance des menus plaisirs est souvent magnifique. Ainsi, pour le sacre de Louis XVI, comme on peut le voir à l'exposition du Palais du Thau, c'est toute une architecture éphémère conçue par l'architecte Louis-Alexandre Giraud et le sculpteur Augustin Bocciardi qui se met en place. Détail savoureux. Une grande partie de la structure provient de l'Opéra Royal de Versailles, décor néoclassique, en faux marbre, avec des loggias où prennent place les princes et les princesses. Sans oublier un dispositif de lustres et de girandoles qui projette une lumière céleste sur la profusion des ors. Le roi prête alors le serment dit de l'Église, lu en latin. Il promet de conserver les privilèges ecclésiastiques et la foi catholique de ses prédécesseurs. Il prête ensuite le serment du royaume, jurant de faire régner la paix, la couronne. Le palais du Thau présente, entre autres chefs-d'œuvre, le portrait de Louis XV enfant, par Alexis Simon Bell. Sous le somptueux manteau du sacre, précise Alexandre Maral, conservateur en chef du château de Versailles, l'enfant roi porte camisole rouge, tunique, dalmatique, grand manteau orné d'une agrafe en losange que nous appelons fermaille du sacre, éperon et bottines, sceptre de Charles V. Ce qui est notable, c'est qu'en réalité, jamais les rois de France ne sont habillés de la sorte, car sous le manteau du sacre, ils portent la culotte bouffante, symbole de leur qualité de chef et souverain grand maître de l'ordre du Saint-Esprit. Il faut aussi noter les talons rouges de leurs souliers. Conduit sous un dais et placé sur un second trône, le roi peut être salué enfin par son peuple. Les portes de la cathédrale viennent de s'ouvrir. Le Te Deum retentit. Les cloches sonnent à toute volée. Des colombes sont lâchées dans la cathédrale. Les canons tonnent. La messe pontificale est célébrée au maître-autel. Descendant de son trône, le souverain sacré offre un vase de vin, un pain d'argent, d'ailleurs visible aussi à l'exposition, et 13 pièces d'or, souvenir de l'offrande faite par l'époux à son épouse. À nouveau, Louis assiste à une messe basse, puis se confesse avant de recevoir la communion sous les deux espèces, pain et vin, comme un prêtre nouvellement ordonné. Autour de lui, les princes, les princesses et courtisans, tous somptueusement habillés. Ainsi peut-on voir au palais du Thau les magnifiques tabards de héros d'armes du sacre de Charles X en velours de soie, paillettes et cantiles d'or. Issu à l'origine de la panoplie du chevalier, le tabard se porte sur l'armure au Moyen-Âge. Le héros d'armes porte également bâton de commandement et celui du roi d'armes surmonté de la couronne fermée. La couleur du tabard, l'hyacinthe, les fils d'or, les franges d'or, donnent à l'ensemble une allure de légende. Comment également ne pas admirer dans l'exposition les objets d'or et de vermeil admirablement ciselés, tels le reliquaire de la Sainte Ampoule, le calice du sacre, incrusté de perles et de pierres précieuses, les encensoirs de Jean-Charles Caillé, les plateaux de présentation, le fauteuil du sacre de Charles X, de Pierre-Gaston Brion. Enfin, mention toute spéciale pour le manteau du dauphin que le duc d'Angoulême portait lors du sacre de son père, le roi Charles X. Décoré de fleurs de lys, de feuilles d'acanthe, de lauriers bordés d'hermine, il évoque une époque évanouie, pacte sacré entre le peuple et son roi. France Guimard Roche vous retrouvera à Versailles avec Bienvenue chez le Roi, enregistré et réalisé par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.